Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La relique de Lumumba arrive aujourd'hui à Lubumbashi. Elle sera ensuite amenée au village Chilatembo, lieu où Lumumba et ses compagnons avaient été tués le 17 janvier 1961. Cet endroit est devenu un site touristique. Jean Gandou nous le présente dans ce journal. 7 personnes tuées hier par des EDF à Samboko, village situé entre Beni au nord Kivu et Irumu en Ituri. L'armée dit être intervenue pour pourchasser ces rebelles. Pour la société civile locale, l'ennemi profite de la trêve des opérations conjointes par des CUPDF pour commettre ces actes. Elle appelle ainsi à la relance de ces opérations. Et puis, l'invité de ce midi, Eric Koukou-Kiesse, coordonnateur de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Il nous parle de l'atelier tenu vendredi à Matadi sur la traite des personnes au Congo central. L'objectif est de prélever et recenser les différents cas de la traite des personnes, dit-il. Madame, Messieurs, bonjour. La relique de Patrice Emery Lumumba arrive ce dimanche à Lubumbashi, puis elle sera amenée au village Chilatembo, où Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, avaient été tués le 17 janvier 1961. Cet endroit où ils ont été exécutés est devenu un site touristique aménagé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Notre collègue Jean Gandou s'y est rendu et nous le présente dans ce reportage.
De la ville de Lubumbashi au village Chilatembo, il faut dans un premier temps parcourir plus de 50 kilomètres. Une fois arrivé, il faut prendre la gauche et vite on est accueilli par une pancarte où il est écrit « Bienvenue au site touristique Lumumba ». En face, il y a une route en terre battue qui conduit jusqu'au lieu où est construit le mausolée du tout premier héros national de la RDC. À gauche du mausolée se trouve un vieil avion que l'on présente comme celui qui avait transporté Lumumba et ses compagnons avant d'être exécuté. Pour la circonstance, cet avion est frappé de l'effigie de Patrice Emery Lumumba. Juste en face est placé le monument du héros national. À côté de la statue, on peut apercevoir l'arbre autour duquel Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons avaient été ligotés avant d'être abattus. Derrière ce premier mausolée, les allées sont bien aménagées avec des pavés. Elles conduisent à gauche au piédestal de Maurice Polo et à droite à celui de Joseph Okito. Et une autre allée conduit vers le statut de M. Laurent Désiré Kabila. Tous ces ouvrages sont entourés de beaucoup d'arbres qui donnent non seulement pas de l'ombrage, mais aussi un bel air, le tout dans un silence qui ne peut être brisé que par les chants d'oiseaux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, 7 personnes ont été abattues samedi par des rebelles des EDF à Samboko, village situé à cheval entre les territoires de Beni au nord Kivu et Irumu en Ituri. Selon des sources sécuritaires, l'ennemi voulait se ravitailler en nourriture et médicaments dans cette entité. L'armée dit être intervenue pour pourchasser ces rebelles en direction de Mamové. La société civile locale appelle à la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF d'orienter leurs opérations dans la forêt de Kainama où l'ennemi cherche à se réorganiser. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Une dizaine d'hommes armés identifiés aux rebelles de ZADF en provenance du Nord Kivu ont fait incursion dans cette petite bourgade de Samboko aux petites heures du matin, à tirer plusieurs coups de balles. Selon des sources de sécurité, ces rebelles se sont ensuite introduits dans des maisons d'habitation. Dans cette confusion, 7 personnes seront touchées par balles et mortes sur place. 3 autres villageois seront grièvement blessés, indique la même source. Les militaires FARDC affirment être intervenus pour mettre en déroute ces assaillants. Il s'en est suivi un échange de tirs. Dans leur fuite, ces ZADF ont mis les feux à 4 maisons d'habitation, 8 boutiques et ont apporté 16 personnes à Brousse pour transporter des biens pillés. La société civile locale indique que l'ennemi profite de cette trêve des opérations conjointes entre les FARDC et les UPDF pour commettre des exactions contre la population. Elle appelle à la relance de ces opérations pour mettre en déroute ces ZADF qui sillonnent paisiblement dans la forêt de Kainama au nord Kivu où ils planifieraient des attaques contre plusieurs villages du territoire d'Irumu en Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, au nord Kivu, la situation est restée calme ce dimanche sur la ligne de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 et leurs alliés. Toutefois, selon des sources concordantes dans le groupement de Kisigari, dans le territoire de Rutshuru, où se sont déroulés les derniers affrontements vendredi dans la soirée, la situation est volatile. Chaque parti consolide sa position tout en se regardant en chien de faïence à Rumuvu, selon nos sources, ce qui justifierait la peur de la population populations en déplacement vers Rubare, Kalingera, Kako et Rumangabo sur la route Goma-Rutshuru de retourner dans leurs milieux respectifs, ont indiqué des sources sur place. Par ailleurs, la société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à ne pas oublier la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Beni. Selon le premier vice-président de cette structure citoyenne, actuellement tous les efforts seraient concentrés dans le territoire de Rutshuru à cause de la résurgence de la rébellion du M23, alors que les EDF multiplient les attaques contre les civils à Beni, d'où son appel au gouvernement à concentrer également ses actions dans cette région. Edgar Mateso le dit au micro de Martial Papimukeba.
Tout le monde tourne les regards vers Rutshuru, alors que en territoire de Beni, il y a des menaces graves sur la population. À l'intervalle de 10 jours, 3 attaques sur la commune rurale d'Oicha, alors qu'on vient de faire plus ou moins 2 ans sans que l'on assiste à ce genre de situation. La situation sécuritaire était déjà presque maîtrisée à Oicha. À cela, il faut ajouter la récente attaque de Mamove, la situation qu'on a eu à observer à Kokola. Il y a eu aussi l'embuscade du côté de Kilia dans le Rwenzori. Et comme pour dire que l'ADEF continue à renforcer ces actions, ces attaques contre les civils en territoire de Beni, les gens continuent à être tués dans cette région. Nous voudrions que le gouvernement concentre son regard de la même manière qu'il le fait à Rutshuru, mais que ce regard reste permanent à Beni.
De son côté, l'UNICEF s'est dit gravement préoccupé par les récentes attaques armées contre des civils dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, attaques qui ont entraîné la mort de 4 enfants, indique l'agence onusienne dans un communiqué publié samedi 25 juin. L'UNICEF condamne fermement la perte de vie innocente dans cette escalade de la violence au Nord Kivu et appelle les parties au conflit à mettre fin au combat, à assurer un accès humanitaire aux zones touchées et à respecter leur obligation de protéger les enfants. D'autres détails avec Alain Rongmouchinj.
Depuis la fin du mois de mars, explique le communiqué, plus de 158 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été déplacées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo à la suite de l'intensification des affrontements armés. Certaines personnes ont fui vers l'Ouganda, tandis que d'autres ont cherché refuge dans des églises, des écoles et des hébergements de fortune dans le territoire de Rutshuru. Selon l'UNICEF, environ 41 000 enfants déplacés âgés de 3 à 17 ans ne vont actuellement pas à l'école et près de 29 000 enfants sont privés d'éducation, car leurs écoles sont occupées par les personnes déplacées. On estime que 652 enfants ont été séparés de leurs parents ou gardiens depuis mars 2022. Les enfants et les familles qui fuient Edo. Les enfants sont traumatisés par la violence dont ils sont témoins et ont besoin de soins psychosociaux. Malgré les difficultés rencontrées pour accéder aux zones touchées en raison de la situation sécuritaire, l'UNICEF a été en mesure d'apporter une réponse de première ligne aux familles déplacées et nous allons intensifier notre aide dans les prochaines semaines, a déclaré Jean Métainier, coordinateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC.
Pendant ce temps, des marches de soutien aux FARDC s'est multipliées à travers le pays. C'est notamment au Grand Équateur. La population a marché hier à Mbandaka dans l'Équateur et à Gbadolite dans le Nord Ubangi. C'est un reportage de Paul Richard Malengela.
Samedi tôt le matin, les habitants de Mbandaka ont participé nombreux à la marche de soutien au FARDC. Cette initiative de l'association des amis de l'opposé Amilo a relié les 2 communes de la ville. Au point de chute à Mbandaka 2, le député provincial Peter Lopos a lancé un message de solidarité et d'interpellation aux autorités nationales.
Nous avons aussi interpellé les autorités nationales de soutenir, d'équiper les militaires qui sont à l'est. C'est parce que si on envoie quelqu'un devant le combat, il doit être équipé. C'est-à-dire on doit donner des rations, on doit donner de l'argent, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans de bonnes conditions.
Entre-temps, la population a aussi marché à Gbadolite en soutien au FARDC et à la population dans l'Est, victime des barbaries de M23 et des ADF. Organisé par le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Ubangi, en collaboration avec la société civile et les églises locales, cette marche a servi d'exprimer publiquement le soutien de toute la province aux vaillants militaires FARDC qui combattent pour défendre l'intégrité territoriale, mais aussi l'unité nationale, ont dit les organisateurs. Une collecte de fonds a été lancée à cette occasion. Elle va se poursuivre dimanche au niveau des églises, puis le lundi à travers les marchés et services publics. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Notons que ce même samedi à Mbandaka, un culte d'intercession en faveur des FARDC et les familles meurtries dans l'est du pays a été organisé par l'Église du Christ au Congo et CC Équateur. C'était au temple du Centre évangélique francophone, la Borne, 37e KDC. Les autorités provinciales ont également pris part à ce culte. Au moins 300 jeunes au Sud Kivu sont sortis du chômage et devenus des entrepreneurs. Cela grâce à l'accompagnement de l'ASBEL ASOP, entendez, Action sociale et d'encadrement paysanne, avec l'appui financier de City Foundation. C'est à travers un programme dénommé Yulima. Jean Kassami nous en parle.
ASOP est actuellement opérationnel à Bukavu à travers un incubateur d'entreprises visant la promotion des initiatives entrepreneuriales et l'employabilité des jeunes. Son coordonnateur, Félicien Zozo, parle de ce que son association réalise en faveur des jeunes entrepreneurs du site Kivu.
Chacun obtient les fonds selon son plan d'affaires et selon effectivement les disponibilités des fonds. En ce qui concerne les jeunes qui viennent de l'incubateur, ils ont eu cette chance d'avoir ces fonds de City Foundation et là, c'est donné de manière égale. Alors nos équipes sont là effectivement pour discuter avec chaque entrepreneur pour voir ce qu'il a comme plan d'affaires. Nous, notre contribution à travers les fonds de USAID et City Foundation, c'est de 5 000 $ et les projets des entrepreneurs du fer et leur budget du fer. Notre contribution, c'est une contribution uniforme de 5 000 $ qui vont directement auprès de chaque entrepreneur, tout en sachant bien que chacun son entreprise, chacun son budget.
Des festivités de Yulima 2022 se déroulent à Bukavu depuis vendredi le 24 jusqu'au samedi 25 juin 2022. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Nord Kivu voisin, une soixantaine des femmes victimes de violences sexuelles en milieu de conflit sont bénéficiaires du projet d'appui à la réinsertion socio-économique, un projet financé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et exécuté par la coopérative des femmes vivant autour et dans les sites miniers. Reportage de Bernardine Diambou.
Bien que les statistiques de victimes de violences sexuelles au Nord Kivu n'ont pas été révélées, les responsables du Bureau des droits de l'homme à la MONUSCO Goma dit que la situation est alarmante avec la résurgence des conflits au Nord Kivu. Astumbo.
Très alarmant. Comme vous le savez, nous sommes dans une province qui est encore dans l'insécurité et malheureusement, on documente encore des femmes, des filles, des hommes et des garçons aussi qui sont victimes de violences sexuelles dans l'Est du Congo.
À l'occasion, la coordinatrice de la coopérative des femmes vivant autour et dans les sites miniers a profité pour parler de son projet d'appui à la réinsertion socio-économique des femmes lancé il y a un mois, Madame Isabella Pendeza.
Nous avons identifié différents métiers, dont la coupecture, les tressages et aussi l'agriculture. L'agriculture, c'est dans les territoires de Nyiragongo. Les tressages et la coupe-couture, c'est en ville de Goma et de Sake.
Tout en encourageant cette initiative, la déléguée du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Prisca Luanda, a appelé d'autres partenaires à emboîter les pas à cette coopérative afin de voir comment relever les capacités économiques des femmes vulnérables au Nord Kivu. Signalons qu'après la projection d'un film sur les violences sexuelles, les participants se sont rendus à la prison centrale de Mundenze où elles ont apporté des vivres aux femmes détenues. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Et à Bandundouville, l'ONG PASCO, entendez, parlons sida aux communautés, a organisé vendredi et hier samedi une session de formation sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organisations identitaires, des populations clés, dont les homosexuels, les professionnels de sexe, les transgenres et des utilisateurs des drogues injectables. D'après Docteur Bienvenue Adakeka de PASCO, le but est d'accompagner ces catégories de personnes dans la protection contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissible. Le point avec Irène Boma.
Plus de 20 personnes, hommes et femmes, considérées comme population clé, on prépare à cette session de formation de 2 jours qu'organise l'ONG PASCO à Bandundouville. Docteur Bienvenue Anakeka de cette ONG explique l'importance des dites assises.
Population clé, ce sont des professionnels des sexes, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les transgenres, les utilisateurs de drogues. Transgenre signifie un changement de genre. Il est homme, mais il se fait femme. Par rapport à l'atelier que nous avons organisé, nous voulons les aider, que chaque catégorie ait une association, un siège. Nous, ce que nous voulons, c'est juste les accompagner pour qu'ils soient en bonne santé. Par rapport à IST et VIH-SIDA, qu'ils sachent comment se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne sois pas malade. Ils peuvent venir se procurer des médicaments, des préservatifs, des gels lubrifiants.
Le ministre provincial de la Santé du Kwilu, Dr. Ben Amutui, a salué cette initiative de l'ONG PASCO.
Je commence par remercier l'ONG PASCO. Ils sont en train de renforcer leur capacité à pouvoir freiner la transmission du VIH-SIDA, des infections sexuellement transmissibles.
Signalons que cette session de formation qui a débuté vendredi dernier à l'hôtel Majestic Bandundu s'est clôturée ce samedi. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Gabon et le Togo ont rejoint samedi le Commonwealth, devenant ainsi les dernières nations sans lien historique avec le Royaume-Uni à entrer dans le club anglophone dirigé par la reine Elisabeth II. Le Commonwealth, qui est composé de 54 pays dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, a accepté la demande d'adhésion du Togo et du Gabon au dernier jour de son sommet au Rwanda. Le ministre togolais des Affaires étrangères a déclaré que l'adhésion à cette communauté et ses 2,5 milliards de consommateurs offrait des nouvelles opportunités économiques et éducatives et suscitait un engouement pour l'anglais parmi ses compatriotes.
L'invité.
L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a ouvert vendredi à Matadi un atelier sur les enquêteurs et les investigations sur la traite des personnes au Congo central. L'objectif est de prélever et recenser les différents cas de la traite des personnes. Eric Koukouki est coordonnateur de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notre invité. Il s'entretient à ce sujet avec Nana Pleurish Mambou.
Monsieur Eric Koukoukiese, bonjour.
Bonjour.
Vous veniez de lancer officiellement la session d'enquête et d'investigation sur la traite des personnes dans la province du Congo central. Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'intérêt de cette session?
L'intérêt de cette session, c'est de pouvoir obtenir auprès de ceux que nous appelons au sein de l'agence des acteurs de première ligne en matière pénale, dans la chaîne pénale, notamment les magistrats. Et quand je parle des magistrats, il s'agit des officiers du ministère public ou ceux que vous appelez souvent les magistrats du parquet. Il s'agit également, comme acteurs de première ligne, les OP. Donc tous ceux qui travaillent au niveau de la police dans la recherche des infractions. Ce qui nous intéresse en lançant cet atelier sur les investigations et enquêtes en matière de traite des personnes, c'est de pouvoir justement, en application de lois qui existent dans la République démocratique du Congo, obtenir des manières spécifiques des cas des victimes de traite des personnes. Donc les identifier et au besoin, parce que nous sommes l'agence, faire des statistiques sur des cas de violation des droits de l'homme en matière de traite des personnes en République démocratique du Congo et pouvoir obtenir avec la participation et si vous voulez l'intervention de tous ces acteurs de première ligne en matière pénale, obtenir de leur intervention des poursuites réelles en matière de traite des personnes.
Vous lancez les enquêtes de terrain alors qu'il n'existe pas encore une loi qui réprime la traite des personnes en RDC. Comment seront jugés les auteurs de ces crimes?
Il n'existe pas une loi spécifique comme le prévoit la Convention sur la criminalité transnationale organisée, notamment dans son protocole additionnel qu'on appelle protocole de Palerme, qui traite en matière de traite de personnes, excusez la redondance. Mais il existe en République démocratique du Congo plusieurs textes de loi d'ordre pénal qui, dans leur disposition, prévoient des cas, multiples cas de traite de personnes. C'est le cas, par exemple, du mariage forcé, qu'on trouve dans le code pénal, qu'on trouve également dans le code de la famille. On le retrouve également dans la loi portant protection de l'enfant. Donc, il y a certaines particularités des textes juridiques congolais qui prévoient déjà des cas de traite, notamment l'article 162 de la loi portant protection de l'enfant, qui parle même de la traite des enfants et de la vente des enfants. Donc nous avons plusieurs dispositions pénales dans le code pénal qui ont été insérées par le fait de la modification de la loi pénale par ce qu'on appelle les lois contre les violences sexuelles, qui ont apporté tout un arsenal de dispositions pénales portant sur la traite des personnes. Et là, je vois le proxénétisme, notamment l'incitation à l'exploitation sexuelle au niveau des articles 174 KJ. Donc vous verrez que en République démocratique du Congo, nous avons des textes de loi qu'on appelle pas de manière intitulée traite des personnes, mais qui, dans leur contenu, sont des textes qui incriminent et qui punissent toutes certaines formes de traite des personnes que je viens de citer.
Dans votre mot des circonstances, vous avez indiqué que l'exploitation sexuelle couvre 79% des cas de traite des personnes. Comment pouvez-vous expliquer cet aspect des choses?
L'une des formes d'exploitation en matière de traite des personnes, c'est l'exploitation sexuelle. Vous convenez que sur ce plan-là, c'est en première ligne les femmes qui en sont victimes et l'exploitation sexuelle sexuelle, quand nous parlons d'exploitation sexuelle, nous épinglons le cas des femmes. Nous épinglons en particulier le cas de jeunes filles, donc celles qui n'ont pas encore l'âge de 18 ans. Nous sommes ici dans une province qui est en frontière avec l'Angola et aussi avec la République démocratique du Congo. Et il y a des flux migratoires, surtout avec l'Angola. Et dans ce flux migratoire, il y a plusieurs cas de traite qui ont été épinglés, notamment l'exploitation sexuelle, notamment le cas des ventes des enfants. Donc il y a plusieurs cas qui ont été épinglés, mais qui sont encore des statistiques informelles des ONG. Ce que nous voulons au niveau de l'agence, c'est pouvoir épingler ces cas, cette fois-ci avec les acteurs de première ligne dans la chaîne pénale, donc les OPJ et les magistrats, afin que cela devienne des dossiers judiciaires, qu'on poursuive les auteurs de ces faits et qu'on puisse, ce qui nous intéresse dans la première branche, c'est de pouvoir obtenir l'identification de ces victimes et savoir en réalité ce qu'elles ont subi comme dommages d'ordre négatif et pourquoi pas tirer des conséquences sur nos interventions en matière de traite des personnes.
En parlant des flux migratoires, au Congo central, il existe plusieurs frontières ouvertes entre la RDC et l'Angola. Alors, si les auteurs de la traite des personnes sont des étrangers, les poursuites seront-elles possibles?
En fait, comme vous le constatez, en République démocratique du Congo, on est en train d'impliquer en matière de traite des personnes une convention qui est d'ordre international et cette convention, elle est venue des Nations Unies, ce qui veut dire que, et la République démocratique du Congo et l'Angola faisant partie des Nations Unies. C'est donc un texte international qui est d'application dans les deux pays. Et en matière de traite des personnes, ce que prévoit la Convention de Palerme, c'est la coopération non seulement judiciaire, mais la coopération policière et criminelle entre les États en matière de traite des personnes.
Monsieur Eric Koukoukiesse, merci.
Notre invité, le coordonnateur de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, répondait aux questions de Nana Plurich Mambou depuis Matadi. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Roumouchinj, Noëlla Luzito Kabambi à la coordination, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.